Donc on est sur un modèle économique qui est comme ça, qui essaie de s'adapter à cette nouvelle invention. Et puis évidemment, il y a un autre problème qui est celui cette fois-ci de, à l'échelle internationale, de savoir comment on organise tout ça. Parce que évidemment, les ondes, par définition, ne connaissent pas les frontières. Et au fur et à mesure que la situation politique de l'Europe se crispe et se devient de plus en plus conflictuelle, l'enjeu des ondes radiophoniques devient évidemment très importante. Alors, les différents États, en particulier en Europe, avaient déjà l'habitude de se rencontrer et de discuter avec la mise au point du télégraphe électrique. Et ils vont donc continuer leurs négociations en mettant au point une organisation internationale qui s'appelle l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, qui existe toujours aujourd'hui, qui continue encore aujourd'hui à gérer les problématiques non seulement de radiodiffusion, mais également intervient sur les problématiques liées à Internet, à la télévision et ainsi de suite. Et là encore, on retrouve à l'origine la radio et le télégraphe comme étant à la base de ces rencontres internationales. Donc voilà brièvement pour ce deuxième point. Avant d'entamer le problème de l'usage militaire et des enjeux en termes de pouvoir politique, est-ce que vous avez des questions sur cette période des années 1920-1930 et sur l'émergence, la construction de cette industrie radiophonique? Alors, puisque j'ai parlé des enjeux politiques et militaires, comme je vous l'ai dit, donc à partir des années 1930, la radio est vraiment inscrite dans le paysage social des pays d'Europe. Elle est déjà utilisée comme moyen de propagande. Les premiers à l'expérimenter de façon massive comme moyen de propagande, ce sont les Soviétiques à l'occasion de la Révolution. D'ailleurs, la Révolution de 1917 mettra en exergue du côté des insurgés l'utilisation de la radio parce que les troupes du tsar détruisaient les ateliers de journaux ou les postes télégraphiques tenus par les révoltés. Donc, ils utilisaient déjà la TSF pour pouvoir communiquer et diffuser des messages. Et puis, évidemment, avec l'émergence des régimes totalitaires, que ce soit dans l'Italie fasciste ou l'Allemagne nazie, la radio va véritablement devenir un moyen de propagande institutionnalisé. L'un des premiers, malheureusement, j'allais dire, à envisager une organisation industrielle de cette propagande, c'est le ministre de la propagande d'Hitler, c'est Goebbels. Goebbels disait une chose qui illustre parfaitement l'idée qu'il se faisait de la radio. Il se disait, grâce à la radio, le régime a éliminé tout esprit de révolte. Alors c'est propre à la philosophie nazie qui consiste non seulement à éliminer les opposants au régime, les révoltés et autres, mais à aller beaucoup plus loin en conditionnant l'individu selon une idéologie bien particulière sur laquelle évidemment les événements futurs ont montré à quel point elle conduisait à une horreur sans nom. Et malheureusement, la propagande organisée par Goebbels a été remarquablement efficace. Alors, qu'on me comprenne bien, quand je dis remarquablement, c'est pas évidemment un jugement de valeur sur ce qui était diffusé. C'est sur l'efficacité de l'organisation mise en place. Non seulement les journaux, non seulement le cinéma, mais bien évidemment la radio était organisée, encadrée, structurée par le régime nazi de telle sorte qu'il y a un véritable matraquage idéologique quotidien des idées du régime. Non seulement dans la diffusion des messages, mais Goebbels se préoccupait aussi du fait que les Allemands soient capables de bien capter ces messages, et donc il vendait et fabriquait à très bas prix des postes récepteurs qui permettaient, même à l'ouvrier allemand, qui n'avait pas forcément de grands moyens, de se payer un poste récepteur, ce qui était en plus pour lui une promotion sociale, puisque même lui, ouvrier, avait un poste. Donc il y avait tout un jeu pervers entre l'objet et le récepteur, qui était une marque de réussite sociale quelque part, et son exploitation à des fins de propagande. Cette propagande, évidemment, utilisait toute la gamme des moyens radiophoniques que j'évoquais tout à l'heure, que ce soit les plus classiques, diffusion des messages du Führer, diffusion de journaux, mais diffusion également de mensonges d'État, en expliquant que tous les autres étaient des adversaires de l'Allemagne, que l'espace vital de l'Allemagne était nécessaire. Bien évidemment, et malheureusement, les discours haineux et antisémites qui étaient relayés en permanence, non seulement par les émissions, mais par aussi des feuilletons radiophoniques qui reprenaient ce que faisaient les fictions au cinéma d'Allemagne des années 1930, et ainsi de suite. Donc on avait véritablement une utilisation encadré, organisé, industriel de ce moyen de communication au service de l'idéologie. Du côté des alliés, que ce soit les Français, les Anglais ou les Américains, on a une réaction relativement tardive à ces mécanismes de propagande. C'est-à-dire que, alors que dès les années 1933, les radios allemandes diffusent des messages à la glorification du régime, les Français et les Anglais ne réagiront que vers les années 1938-1939, c'est-à-dire bien tardivement, à ces différents messages, en essayant de faire timidement une contre-propagande, en particulier dans les années 1939. Lorsque la guerre éclate, il est évident pour l'ensemble des nations engagées dans le conflit que la radio joue un rôle crucial, non seulement dans la propagande des idées, mais également dans la diffusion des idéologies, dans la préparation des opérations militaires, et ainsi de suite. Alors, les épisodes sont fameux autour de ces événements. On peut citer notamment la destruction des postes radiophoniques du côté polonais par les Allemands, qui accuseront les Polonais d'avoir sabordé leur propre radio, et qui sera utilisé comme un des arguments à l'intervention, par exemple, de l'Allemagne. On peut citer, évidemment, du côté de la résistance française, le fameux appel du 18 juin du général de Gaulle, que vous devez connaître amplement. Pour la petite histoire, d'ailleurs, l'appel du 18 juin que vous entendez à l'occasion des différentes commémorations est un enregistrement qui date du 22. On n'a aucune trace du 18 juin, et il est fort probable que très peu de gens aient entendu, en fait, cet appel sur le moment. Mais il a été, le général de Gaulle est intervenu à plusieurs reprises pour retransmettre ce message, et celui que vous entendez la plupart du temps sur les ondes, c'est celui du 22 juin. Et cette guerre radiophonique, elle prend notamment une lutte d'idées et de propagande et de contre-propagande. Dans les anecdotes fameuses, la BBC, lorsqu'elle diffusait ses émissions en français, les émaillait parfois de blagues, de chansons ou de mini-slogans humoristiques, en particulier sur Radio Paris est allemand, que l'on chantonnait tant qu'il n'y avait pas d'agent de la Gestapo dans les rues de Paris, sous le manteau, dans les années 40. Le rôle qu'a joué cette radio pendant la Seconde Guerre mondiale va se poursuivre après la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre froide, puisque les deux blocs, côté américain mais aussi côté russe, vont instrumentaliser la radio à l'échelle internationale pour avoir un moyen de propagande de leurs idéologies respectives de part et d'autre des deux blocs qu'ils formaient. Alors que ce soit à travers des financements de radio locales qui étaient en fait financés par des capitaux américains pour promouvoir des émissions américaines, ou à l'inverse financés par les soviétiques ou équipés par les soviétiques, on a tout au long de la guerre froide également une lutte idéologique par ondes radiophoniques qui reprenaient et qui relayaient la lutte qui se faisait à travers les films de propagande, les affiches, les journaux et ainsi de suite. Donc, cette radio qui est véritablement instrumentalisée va conduire, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les pouvoirs publics, en particulier en France et en Angleterre, à reprendre en main, si je puis dire, les problèmes de la radio. Alors paradoxalement, les Anglais qui avaient mis en place le monopole vont permettre à la BBC d'être un peu plus libérale, parce que du côté anglais, ils ont le sentiment que finalement la BBC a bien rempli son rôle. Ils lui ont laissé suffisamment de marge de manœuvre, elle a aidé en particulier les Français à diffuser leur message, elle bénéficie d'une très bonne image du côté du public britannique, et donc la BBC va profiter du lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour avoir, malgré sa condition monopolistique, un peu plus de liberté. À l'inverse, en France, c'est le grand ménage. C'est-à-dire qu'évidemment, un certain nombre de radios ayant basculé dans la collaboration pendant les années 1940, eh bien, il y a une reprise en main étatique. Et dès 1947, on décide qu'il n'y a plus qu'un seul monopole d'État et que toutes les autres radios sont interdites. En général, en France, quand on interdit quelque chose, il y a souvent des entrepreneurs ou des innovateurs qui veulent contourner l'interdit. Donc, pour contourner l'interdit, comment faire ? Eh bien, en reprenant ce que faisaient déjà au XVIIe siècle les imprimeurs interdits par le roi, en s'installant à la périphérie, non pas du royaume, mais de la République française. C'est ce qu'on appelle les radios périphériques. Vous les connaissez bien, elles s'appellent Europe 1, elles s'appellent RMC, elles s'appellent RTL. Toutes ces radios, en fait, se sont installées à la frontière, à Monte-Carlo, en Allemagne, dans la Sarre, bref, pas trop loin de la frontière pour pouvoir être captées. mais évidemment dans un autre pays pour ne pas avoir à subir la législation française en matière de diffusion, de radiodiffusion. Et donc, on est là aux prémices de ce que l'on appellera ensuite le phénomène des radios libres. Mais avant d'entamer ce quatrième point, est-ce que vous avez des questions sur les radios comme moyen de propagande, comme arme de guerre? Oui. Alors, officiellement, sur le territoire français, vous n'aviez plus qu'une seule radio, puisque Radio Paris était contrôlée par les Allemands et émettait, plus des postes de diffusion allemands, qui étaient destinés en fait uniquement aux troupes, puisqu'ils parlaient allemand et ça intéressait relativement peu de Français. Alors, avant la Seconde Guerre mondiale, on avait à peu près une quinzaine de radios privées qui diffusaient sur le territoire français. Alors, sur tout le territoire, oui, mais c'est vrai que c'était les zones urbaines qui étaient les mieux achalandées, si je puis dire, puisque la plupart du temps, les émetteurs se situaient dans les zones urbaines ou sur des zones en altitude pour pouvoir diffuser facilement. Je pense, par exemple, dans le Massif central, où on utilisait le Puy-de-Dôme pour pouvoir émettre facilement et diffuser du côté de Clermont-Ferrand et des villes aux alentours. Alors, contrairement aux États-Unis, la plupart des radios privées françaises sont restées relativement modestes. Parce que d'une part, il y avait toujours l'épée de Damoclès de l'autorisation gouvernementale qui pouvait leur être retirée. Donc les investisseurs étaient relativement méfiants par rapport à cela. Et d'ailleurs, beaucoup de radios ont changé. Par exemple, Radio Paris avait d'abord été Radio La, il y a eu de nouveaux investissements et ainsi de suite. Donc on avait une quinzaine de radios, mais qui n'avaient pas l'ampleur et la force des networks américains. Les networks américains comme CBS, par exemple, qui existent toujours dans le domaine audiovisuel, se sont structurés dès les années 1920 grâce à la radio, mais à une échelle sans commune mesure avec celle que l'on peut observer en France. Donc en France, on a un paysage radiophonique qui reste relativement éclaté et beaucoup plus modeste que n'est la BBC en Angleterre ou les networks américains. La Radio Paris, non, était une radio qui était privée, mais qui était soumise à l'autorisation publique. C'est-à-dire que le gouvernement se réservait à tout moment le droit de retirer une autorisation d'émettre à une radio privée. Si le gouvernement avait aussi ses propres radios qui diffusaient également et qui étaient l'ancêtre de Radio France. D'autres questions? D'accord. Alors, cette problématique des libertés, après la Seconde Guerre mondiale, elle va rebondir dans les années 1960-1970 avec la question des radios libres. Alors ça a commencé en Angleterre, puisque un certain nombre de jeunes radiophonistes ont voulu contourner le monopole de la BBC pour pouvoir émettre leurs propres émissions. Alors, il faut savoir que l'ambition première de ces jeunes radiophonistes, c'était d'abord et avant tout de pouvoir diffuser de la musique rock qui ne passait pas sur les chaînes officielles. Et donc ce sont des radios pirates, notamment la Radio Caroline par exemple. Certaines vont émettre à partir de plateformes offshore pour pouvoir, dans les eaux internationales, contourner l'interdit l'interdit du gouvernement anglais et le monopole de la BBC. Et ce mouvement des radios pirates, des radios libres, va également arriver en France à partir des années 1970 et va donner lieu à un vaste débat en France, puisque là encore, le gouvernement de l'époque, en particulier la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, s'oppose farouchement à la possibilité de créer des radios qui soient des radios privées ou associatives. Alors pourquoi une telle opposition? Mais d'abord parce que on est toujours sur le trauma de l'occupation et du fait qu'une partie des radios avait collaboré au cours de la Seconde Guerre mondiale, et puis aussi parce que le gouvernement français à l'époque est refroidi par ce qui se passe en Italie, où à l'époque le gouvernement italien a choisi de libéraliser l'accès des radios, ce qui a créé une anarchie complète au niveau des systèmes de radiodiffusion, avec des radios qui se marchaient sur les pieds les unes sur les autres. Sans compter l'instrumentalisation politique avec les Brigades Rouges qui diffusaient les idéologies de l'ultra-gauche et de la prise violente du pouvoir. Donc en France, on est vraiment extraordinairement réticents. Et l'un des enjeux de l'élection présidentielle de 1981, ce sera justement, entre autres, la question des radios libres. Lorsque François Mitterrand accède à la présidence en 1981, un certain nombre de décrets vont être pris pour autoriser des radios privées, mais dans un premier temps, des radios privées à but non lucratif. La crainte de François Mitterrand et du gouvernement de Pierre Mauroy, c'est de voir l'industrie radiophonique basculer dans le privé, à l'image de ce qui se passe aux États-Unis, et d'être gangrénée par la publicité. On parlait à l'époque des radiofrics comme étant la pire des choses à éviter. Et puis finalement, en 1984, on va autoriser ces radios privées, également celles à usage lucratif. Et vous les connaissez également, puisque ce sont des radios comme Energy, comme Skyrock, comme Fun Radio et autres, qui sont en fait nées à ce moment-là du mouvement des radios libres, bien que pour les détracteurs de ces radios, elles ne soient devenues que des radios commerciales aujourd'hui.